athéiste est venue. Naam. Alors elle a dit, c'est-à-dire ma mère est venue me voir, bien sûr, désirant ma bienfaisance. Est-ce que je peux lui être charitable? Le messager d'Allah a répondu, oui, sois charitable envers ta mère. Le hadith est rapporté dans Bukhari Muslim. Donc la mère de Esma, qui était mécréante, quand elle est venue la voir pour lui demander de l'aide, de l'argent, de la charité, de la bienfaisance, Esma, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je ne peux pas faire une chose pareille sans demander l'avis du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand elle lui a demandé qu'est-ce qu'elle doit faire, il lui a dit, sois charitable envers ta mère. Naam. Donc, le vrai musulman est celui qui aime les gens et bénéficie en retour de leur amour, car il concrétise par son comportement le caractère noble et la haute moralité. Tout comme il a recommandé la bienveillance envers père et mère, même s'ils sont mécréants, l'islam recommande aussi aux croyants d'être bienveillants envers ses proches parents, y compris les non-musulmans. Cela reflète en effet la dimension humaniste et tolérante de cette religion dans le livre dit, c'est-à-dire le Coran, et nous ne t'avons pas miséricorde pour l'univers. Coran 21, 107. Quatrième sous-chapitre, elle applique le maintien des liens de parenté dans son sens le plus large. Elle applique le maintien des liens de parenté dans son sens le plus large. Les liens de parenté se traduisent par plusieurs méthodes. Comment qu'une personne peut maintenir des liens de parenté et de quelle façon on peut maintenir ce lien. Maintenir les liens de parenté se traduit par plusieurs méthodes et prend plusieurs formes. Naam. Tantôt, la femme musulmane le concrétise par l'aumône qu'elle fait aux nécessiteux parmi ses proches. Tantôt, que doit faire la femme musulmane? Et même l'homme, bien sûr, et même l'homme musulman. Qu'est-ce qu'il va faire pour maintenir les liens? Tantôt, c'est quoi? En faisant l'aumône aux nécessiteux parmi les proches. Et comme vous savez, quand on fait l'aumône aux proches, on a quoi? On a deux récompenses. La première, d'avoir fait l'aumône. La deuxième, de l'avoir faite aux proches. Tantôt, elle maintient les liens de parenté en faisant une visite courtoise pour consolider les liens. En faisant une visite courtoise aux proches pour consolider les liens. Parfois, par une rencontre chaleureuse. Non. Parfois, des mots agréables ou bien un simple sourire affectueux. Souvent, par une œuvre à leur égard qui véhicule la bienveillance et la compassion, etc. En somme, toute attitude et tout acte susceptible de consolider les sentiments d'affection et de solidarité avec les proches parents sont souhaitables, y compris les actes qui nous paraissent anodins ou sans importance. On rapporte à ce sujet que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, maintenez la fraîcheur de vos liens parentaux, fût-ce par une salutation. Naam. Regardez ce hadith, écoutez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenez la fraîcheur de vos liens de parenté. Ne les laissez pas devenir secs. Naam. Ne les laissez pas sécher. Maintenez la fraîcheur de vos liens parentaux en faisant quoi? Il a dit fût-ce par une simple salutation. Le hadith se trouve dans Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani, un bon hadith, numéro 1777. Donc vous voyez, une simple salutation, on peut avec une simple salutation maintenir les liens de parenté. Imaginez maintenant que, masha'Allah, tout le monde a le téléphone portable. Tout le monde a le téléphone portable. Je ne crois pas, Wallahu A'lam, je dis Wallahu A'lam, je ne crois pas que il y a une personne de nos jours qui sera excusée demain devant Allah pour dire je n'avais pas les moyens de maintenir les liens de parenté. Je ne crois pas qu'une personne puisse être exaucée, pardon, j'ai dit exaucée, excusée de nos jours. Non. Pourquoi? Il suffit seulement de sortir le portable de la poche et de former les chiffres et de dire allô mon père, salam alaikum, comment vas-tu? Allô ma mère, salam alaikum, comment vas-tu? Allô mon oncle, salam alaikum, comment vas-tu? Allô ma tante, salam alaikum, comment vas-tu? Allô mon frère, salam alaikum, comment vas-tu? Allô ma soeur, salam alaikum, comment vas-tu? Je ne crois pas que une personne de nos jours pourra dire demain à Allah subhanahu wa ta'ala, j'avais des excuses. Je ne crois pas, naam. Cinquièmement, elle s'attache à ses proches parents, même s'ils rompent avec elle. C'est très important. Cinquièmement, elle s'attache à ses proches parents, même s'ils rompent avec elle. Donc vous voyez, le lien de parenté, c'est pas seulement parce que eux aussi, ils viennent aussi, et eux aussi, ils me téléphonent, et eux aussi, ils maintiennent les liens. Mais c'est maintenir les liens, même quand les autres coupent, même quand les autres rompent. Naam. Il dit ici, une vraie musulmane n'agit pas par réciprocité vis-à-vis de ses proches qui rompent les liens de parenté avec elle. Elle doit plutôt maintenir ses liens même s'il s'obstient à les rompre, car il s'agit là d'une obligation religieuse dont la finalité est la satisfaction et la rétribution d'Allah. Naam. Quand une personne maintient les liens de parenté en se mettant dans le cœur que c'est une adoration, quand elle le fait avec l'intention qu'elle veut la récompense d'Allah Azza wa Jal, elle veut la rétribution d'Allah Azza wa Jal, elle veut le paradis d'Allah Azza wa Jal, alors elle fera cette chose, c'est-à-dire elle ira chez la famille, elle maintiendra le lien même si les autres rompent ce lien, subhanallah Azza wa Jal. Naam. En agissant de la sorte, elle ne s'attend ni à une compensation de la part de ses proches parents, ni même à une réciprocité de leur part. Ainsi, de par son comportement, elle concrétise les nobles valeurs morales auxquelles l'islam incite tout musulman et toute musulmane. L'observance de cette attitude dans ces circonstances est certes difficile et exige des efforts que seuls les vrais croyants parviennent à endurer. Certes, ce n'est pas facile. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas facile que quelqu'un, naam, rompe les liens avec toi et toi, tu maintiens les liens. Ce n'est pas facile que quelqu'un puisse rester une année ou deux années sans te téléphoner et toi, tu lui téléphones. Ce n'est pas facile que quelqu'un, naam, reste une année sans qu'il vienne chez toi et toi tu ailles chez lui. Ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il a dit, ça exige des efforts que seuls les vrais croyants parviennent à endurer. Que seuls les vrais croyants parviennent à endurer. Une seconde, qu'est-ce qu'il dit ici? L'observance de cette attitude dans ces circonstances, comme j'ai dit, exige des efforts que seuls les vrais croyants parviennent à endurer. Cependant, toute musulmane sincère doit faire des efforts à atteindre ce haut rang qui fait d'elle une femme bienveillante envers les proches parents, même s'ils se montrent ingrats et hostiles. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne maintient pas vraiment les liens de parenté celui qui le fait à titre de réciprocité. Seul celui qui renoue avec ses proches lorsqu'il rompt les liens de parenté, celui-là les maintient vraiment. Hadith rapporté par le Bukhari. Naam. Donc celui qui maintient vraiment les liens de parenté, ce n'est pas celui qui les fait à titre de réciprocité. parce qu'ils viennent, je vais chez eux. Parce qu'ils téléphonent, je leur téléphone. Mais, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en islam, celui qui maintient les liens de parenté, c'est celui qui, lorsqu'on coupe, on coupe avec lui les liens, il les maintient toujours. Et ça, bien sûr, comme je viens de le dire, ce n'est pas une chose facile, pour dire la vérité. Le noble comportement que tous les musulmans et toutes les musulmanes doivent observer dans leur relation avec leurs proches parents. En affirmant que le maintien des liens de parenté ne consiste pas à agir à titre de réciprocité, mais surtout à continuer à le faire quand les proches manifestent leur négligence et leur hostilité, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tend à consolider dans l'âme du croyant l'esprit d'indulgence, de patience et de tolérance. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décrit le sort atroce des gens odieux qui renient leur lien de parenté et vont jusqu'à les rompre. On rapporte qu'un homme vint voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, j'ai des proches avec qui je maintiens les liens de parenté alors qu'ils les rompent. J'agis en bien avec eux alors qu'ils me font du mal. Je suis indulgent à leur égard, mais ils m'offensent. Alors qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu: si tu agis vraiment comme tu le dis, c'est comme si tu leur faisais avaler des cendres brûlantes. Et Allah t'accordera son soutien contre eux tant que tu continueras à agir de la sorte. Hadith rapporté par Muslim. Voir Sharh Sahih Muslim, volume 14, volume 16, page 115. Vous savez ce qu'il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Je relis. Il lui a dit: si tu agis vraiment comme tu dis quoi? Tu as dit: je maintiens les liens de parenté alors qu'ils les rompent. J'agis en bien avec eux alors qu'ils me font du mal. Je suis indulgent envers eux alors qu'ils m'offensent. Alors le messager d'Allah a dit: si tu agis, si vraiment tu ne mens pas et tu fais ce que tu viens de dire maintenant, c'est comme si tu leur faisais avaler des cendres brûlantes. Et Allah t'accordera son soutien contre eux tant que tu continueras à agir de la sorte. Telle est l'importance de la parenté en islam. La maintenir est un acte dont la rétribution est sans limite. Ceux qui la renient ou la négligent encourent malheur et réprimande, alors que ceux qui maintiennent ces liens et supportent l'hostilité de leurs proches méritent bonheur et récompense. Rompre la parenté est un péché dont le châtiment est d'une douleur intense, puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé à des cendres brûlantes qu'on avale. Subhanallah al-Azim. À des cendres brûlantes qu'on avale. Elle est importante à un point qu'Allah Azza wa Jal accorde son soutien à celui qui s'y attache et le dote d'endurance afin de pouvoir persévérer et manifester ce noble comportement. Non. Rends les liens. Les liens de parenté. Et toi, tu persévères et tu continues à maintenir ces liens, c'est comme si tu lui faisais avaler des cendres brûlantes. Donc c'est dire que celui qui rend les liens, c'est vraiment un grand péché pour lui. Si ce n'était pas un grand péché, pourquoi alors ça a mangé, a avalé avaler quoi? Des cendres brûlantes. Non, ce n'est pas facile d'avaler des cendres brûlantes. Non, c'est un grand supplice. C'est là le châtiment de celui qui rompt les liens de parenté. Non. Avant de conclure ce chapitre, rappelons qu'une vraie musulmane maintient les liens de parenté en toutes circonstances. Même si ses proches rompent avec elle, elle reste attachée à eux dans l'unique intention de plaire à Allah. Non. Elle n'accorde aucune importance à leurs sottises ou à leurs offenses qu'il lui inflige sporadiquement. Elle ignore ses bassesses, qui n'occupent que les esprits étroits, car elle sait que le fait d'agir réciproquement annule les bonnes œuvres et affecte les bons propos qu'elle doit entretenir avec eux. Si elle adopte cette attitude envers ses proches parents, c'est parce qu'elle agit en conformité du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La parenté est accrochée au trône ». Elle dit, c'est-à-dire la parenté, elle dit « Quiconque établit un lien avec moi, Allah en établit un lien avec lui. Quiconque rompt avec moi, Allah rompt avec lui. » Rapporté par Bukhari Muslim. Vous voyez, quiconque rompt les liens de parenté, bien sûr, sans excuse valable, alors celui-là, Allah Ta'ala a rompu avec lui. Si tu veux avoir un lien avec Allah Azza wa Jal, laisse tes liens de parenté. Naam. Maintiens tes liens de parenté. Arrose. Il a dit, c'est comme un arbre. Arrose tes liens de parenté. Sinon, ça va sécher et tu vas perdre quoi? Tu vas perdre et les parents et le lien qu'il y avait entre toi et Allah Azza wa Jal. On va commencer le huitième chapitre, son comportement vis-à-vis de ses voisins. Le comportement de la musulmane vis-à-vis de ses voisins. Premièrement, elle se conforme aux principes islamiques recommandant le bon voisinage. Premièrement, elle se conforme aux principes islamiques recommandant le bon voisinage. Je vais laisser inshallah ta'ala ce chapitre pour le prochain dars. Je profite vite pour répondre à quelques-unes de vos questions inshallah ta'ala. Tafadhal Oum Firdaus, tafadhal inshallah ta'ala.
Assalamu alaikum. Oum Firdaus, inshallah, vous pouvez poser votre question. Afwan, je vous avais remis le raid sans faire exprès. Passe à Minhaj al-Haq, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question, Minhaj al-Haq, Inch'Allah, en attendant que Oum Firdaous elle prépare sa question. Donc, je rappelle, Barakallahu Fikoum, de préparer vos questions à l'avance pour qu'on puisse gagner du temps.
Pour les questions, inshallah ta'ala, ce n'est pas obligé qu'elles soient liées avec le cours. Non, car on n'est pas dans la aqida. Fadl ibn al-Qayyim.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Concernant le RMI, c'est le revenu minimum d'insertion, sachant qu'on le travaille au noir, mais qu'on l'on dit. Que l'on se dit au RMI que l'on ne travaille pas est interdit ou pas? Yani, chère, la question, le RMI, c'est le revenu minimum d'insertion pour les personnes qui ne travaillent pas en France. Et la question est donc, est-ce qu'on peut le percevoir, le toucher en travaillant au noir? Travailler au noir, c'est-à-dire pas déclarer.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ce que je voudrais faire comprendre, inshallah ta'ala, mes frères et mes sœurs, à mes fils et mes filles, c'est quoi? C'est que en islam, il est interdit de mentir, que ça soit à un musulman ou à un kafir. Naam, être dans la secte des takfiriyin, naam, qui disent on peut mentir au kafir et on peut le voler, on peut le tuer, etc. Tu veux être des salaf salah, tu veux être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les messagers, comme ce qu'a dit le Coran. Dans ce cas, il est interdit de mentir au kafir. Tu lui mens quand il y a lui. Dans la bataille, tu lui mens Et là, et le prophète Aïssam ne montait pas directement, c'est-à-dire il jouait sur les mots. Mais en règle générale, on ne ment pas ni à un kafir ni à un musulman. C'est pour ça que si tu mens, tu lui dis je travaille pas alors que tu travailles, ça veut dire que l'argent que tu perçois devient haram. L'argent que tu perçois devient haram. Et la même chose quand on fait un pacte avec un kafir, on fait un pacte et on fait des conditions, on ne joue pas sur les conditions. On a fait une condition, khalas, c'est une condition. Maintenant, entre parenthèses, si la personne est dans la daroura, elle n'a plus de quoi manger ou de quoi elle va mourir de faim, ça c'est autre chose. Mais je parle en général. En général, on kaffa. Fadla inshallah ta'ala le prochain.
Salam alaikum wa rahmatullah yashir. Ahiyakum Allah, une sœur convertie demande, est-elle obligée de maintenir les liens de parenté avec son père biologique, entre parenthèses, elle est née alors que ses parents n'étaient pas mariés. Qu'Allah le Tout-Puissant vous préserve et vous garde. Amin.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, celui-là, bi'idna azza wa jal, n'est pas son père. Naam, n'est pas son père. Le père, c'est celui qui s'est marié avec ma mère, a été la cause pour que j'existe. C'est celui-là, mon père, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Maintenant, je voudrais poser une question à cette personne. Est-ce que son père biologique, c'est-à-dire, est-ce qu'il dépensait pour elle et comme ça? Naam. Est-ce qu'il dépensait pour elle? Est-ce que c'est lui qui l'a éduqué? Je lui pose cette question, j'attends sa réponse.
Minhaj Lohak, Shir vous a posé une question. Donc la question c'est est-ce que le père biologique, est-ce qu'il a dépensé pour... Donc la réponse est non, pas vraiment. Cette personne a vécu jusqu'à son adolescence avec sa mère et après chez son père, pendant quelques années.
Donc la réponse, Allah Ta'ala, c'était la première. Et pour finir, elle était placée sous tutelle de la DAST. Naam. Celui-là donc, c'est comme j'ai dit, naam. C'est un étranger, c'est quelqu'un qui a fait le haram avec sa mère, naam. C'est un étranger pour elle. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam, tafaddal.
Oum Ibrahim 8, inshallah, c'est à votre tour de poser la question. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Cheikh. Une mère peut-elle donner la zakat à son fils étudiant en sciences? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Amin.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Cette question a deux côtés. Le premier côté, une femme peut donner la zakat même à son mari, même à son fils. Pourquoi? Parce qu'en islam, la femme, ce n'est pas elle qui doit dépenser pour son mari ni pour son fils. C'est pour ça qu'elle peut donner la zakat à son mari ou à son fils, mais s'ils remplissent les conditions. Les conditions, vous les connaissez. S'ils rentrent dans les huit cas, comme par exemple être pauvre, nécessiteux, ou endetté, ou bien voyageur, enfin les huit cas, vous les connaissez. Donc elle voit, est-ce que son fils, il rentre dans les huit? Est-ce qu'il est nécessiteux? Est-ce qu'il est pauvre? Est-ce qu'il est voyageur? Est-ce qu'il est endetté? Et comme ça. Maintenant, reste le deuxième côté. Donner la zakat à quelqu'un, maintenant, je laisse le fils de côté. Le fils, je le laisse. C'est elle qui voit, est-ce qu'il remplit les conditions ou pas. Maintenant, est-ce qu'on peut donner la zakat à quelqu'un qui est étudiant? Parce qu'elle a dit son fils et elle a dit étudiant. C'est pour ça que j'ai dit deux côtés. Est-ce qu'on peut donner la zakat à un étudiant? On peut donner la zakat à un étudiant s'il étudie les sciences islamiques. Si quelqu'un étudie dans la charia, ou bien il doit acheter des livres pour la charia, il doit acheter tafsir, il doit acheter ceci pour apprendre son dîn, on peut lui donner la zakat dans ce sens. Pourquoi? Parce que la zakat, on peut la donner à quelqu'un qui va faire le djihad. Comme on peut la donner à quelqu'un qui va faire le hajj. Et demander la science religieuse, c'est une forme de zakat à son fils s'il est étudiant en sciences islamiques. Maintenant, s'il n'est pas étudiant en sciences islamiques, on peut lui donner la zakat à condition qu'il est par exemple endetté, ou bien nécessiteux, ou bien pauvre. Et comme ça. Wallahu azza wa jal a'lam. Tafadhal inshallah, l'autre question.
Muslima, Inch'Allah, c'est à votre tour de poser la question. Muslimina. Donc, Inch'Allah, c'est toujours le même principe. Quand votre question est finie, vous nous tapez numéro 1, Inch'Allah, pour indiquer qu'il n'y a plus rien à lire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. Amin. Une sœur a été demandée en mariage il y a peu de temps. Elle était d'accord, mais après s'être rendue compte que ce frère n'était pas celui qu'elle croyait être, et elle a des doutes concernant le minhaj de celui-ci, doit-elle continuer avec lui ou bien peut-elle s'arrêter?
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Doit-elle continuer ou bien peut-elle s'arrêter? Naam, elle fait salat istikhara. Elle fait salat istikhara. Et si elle veut arrêter, arrêter. Elle arrête. Parce qu'elle n'a pas encore fait l'acte de mariage. Naam, elle fait salat istikhara et elle voit. De toute façon, ce n'est pas toutes les personnes qui ne sont pas dans le minhaj. Qui ne sont pas mariables. Car des fois, acceptent le minhaj et elles acceptent de suivre le minhaj si on lui montre. Naam. C'est un peu difficile. C'est mieux que la personne soit directement dans le minhaj. Mais des fois, on ne trouve pas. Des fois, on ne trouve pas. Des fois, c'est difficile de trouver. Des fois, ceci. Donc, dans ce cas, on descend au deuxième degré qui est quoi? Qui est l'essentiel, que c'est que cette personne accepte le minhaj. Accepte et n'est pas contre. Car il y a des gens qui ne sont pas dans le minhaj, mais qui sont contre le minhaj. Ceux-là, ils ne sont pas mariables avec un salafi. Non, ou bien une salafia. Mais il y a d'autres qui ne sont pas salafis, mais sont prêts à accepter. Ils ne savent pas. Non, ils sont tout juste, ils ont la fitra, c'est tout. Personne ne leur a montré, personne ne leur a fait comprendre. Et toi-même, moi-même, il y a un temps où on n'était pas salafi. Toi-même, il y a un minhaj. Non. Donc, même, si on trouve directement dans le minhaj, ça c'est le mieux. Mais s'il n'est pas dans le minhaj, au moins, il ne faut pas qu'il soit contre. Mais parle beaucoup des ikhwan. Non. Non, parle beaucoup de ikhwan. S'il parle beaucoup de ikhwan, et il leur donne la thèse qu'il y a, il dit, mashallah, ils sont ceci, ils sont cela, ça veut dire que. Il les défend, naam, il les défend, etc. Ça veut dire que celui-là, il est deux. Naam, c'est l'un des leurs, même si lui, il ne sait pas. C'est l'un des leurs, même si lui, il ne le sait pas. C'est pour ça que, naam, il vaudrait mieux, naam, s'éloigner de lui, bi-idhni azzawajal. Il vaudrait mieux s'éloigner de lui, bi-idhni azzawajal. Naam. Donc, fais Inch'Allah salat istikhara et qu'il y a d'autres, c'est possible qu'il y ait d'autres, Inch'Allah ta'ala, mieux que lui, il vaut mieux le lâcher, bi-idhnillah azzawajal. Tafadhal Inch'Allah le prochain.
Salam alaikum, donc Abou Marwan, c'est à ton tour, Inch'Allah. Donc, si tu veux prendre le micro ou bien la poser par écrit, parce que je sais que tu as l'habitude de la poser par micro, c'est comme tu veux.
Bismillah. Salam ala Rasulillah. Salam alaykoum wa rahmatullah. Vous m'entendez, Cheikh? Est-ce que vous m'entendez? Il y a du son, Inch'Allah. Donc, moi, la question que je voulais vous poser, elle concerne l'interdit, par exemple, quand il y a trois personnes, on est trois dans une pièce, on bavarde, après moi, je vais dans l'oreille de quelqu'un, je vais dans l'oreille de la deuxième personne, je lui parle dans l'oreille et lui me répond, mais la troisième personne, elle n'entend pas. Et en fait, par rapport à ce hadith, je me posais une question par rapport à comment ça s'appelle le paltalk, l'internet. Cheikh, est-ce que vous savez c'est quoi le whisper dans le paltalk? C'est par exemple, on est dans le salon, quelqu'un il vous envoie un message, mais il n'y a que vous qui allez lire le message. Mais ce n'est pas un message privé, hein. C'est un message qui apparaît dans le salon. Et donc moi, il m'est arrivé parfois, je suis dans un salon, j'ai le micro, je parle, et il y a du monde. Et quelqu'un il m'envoie un whisper, et moi je fais comme ça. Donc, le prophète Salem, il a dit, attendez, excusez-moi, un whisper, d'accord, hein, d'accord, whisper. Et bien là, c'est comme si que la personne, elle m'a parlé dans l'oreille. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ce genre de comportement, est-ce que ça rentre dans le hadith? Est-ce que ça rentre dans l'interdit ou est-ce que c'est permis? Ou par exemple, on est deux, on va parler en arabe et il y a quelqu'un avec nous, il comprend pas l'arabe. Et on le laisse. J'ai compris la question, Cheikh. Barakallahu fikoum, assalamu alaykoum, Allah yhafdika, Cheikh.
Wa'alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Avant de revenir à. Avant de répondre à Abu Marwan, je reviens à la sœur qui parlait du frère musulman pour le mariage et qui a dit en ce qui concerne les parents. Naam. En ce qui concerne les parents, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de dire que là, je me rétracte, mais ce qui est grave, c'est de vivre avec une personne avec laquelle. Ce qui est grave, c'est d'être timide. Et de dire, moi je ne peux pas leur dire, alors qu'est-ce que je fais? Je suis obligé d'accepter et je vais vivre avec une personne. C'est pour ça que là, on doit envoyer un émissaire ou bien on envoie quelqu'un pour téléphoner ou bien on téléphone. Là, là, mon cœur n'est pas apaisé. Là, je trouve que vous êtes une famille convenable, etc. Mais c'est une question de cœur, je ne suis pas apaisé. Vous m'excuserez, Inch'Allah ta'ala, comme ça facilement. Là. Ou bien sûr, la sœur peut d'abord, comment dire, elle peut être sûre que ce frère défend cette chose, défend ce ménage, et qu'il n'est pas, car il est possible que lui, il dise des choses comme ça, mais pas en les défendant. Seulement, c'est tout ce qu'il a appris. On ne lui a pas appris le minhaj. Non, c'est possible que ça soit comme ça. Car il y a une différence entre celui qui ne connaît pas la vérité et celui qui connaît la vérité et ne l'accepte pas. Il y a une différence entre les deux. C'est pour ça que la sœur doit voir est-ce que de quel genre est celui-là. Est-ce que c'est le genre qui ne connaît pas ou c'est le genre qui est contre. Et elle fait l'istikhara et elle prend une décision, Inch'Allah ta'ala. Abou Marwan, en ce qui concerne ta réponse, naam, le whisper, là, le whisper, naam, je vois ce que c'est. Le whisper, si c'est, naam, si c'est dans quelque chose, il y en a juste pour guider quelqu'un. Attention ceci, attention cela, attention X, takfir est rentré, et c'est permis. Au contraire, ça a été mis, naam, pour disons pour guider la personne, pour naam, pour lui faire des remarques, pour ceci naam. Mais si le whisper on l'écrit pour parler, voilà la vigilance naam. Mais si le whisper c'est pour parler naam, des gens naam, pour les critiquer, pour faire des choses, dire des choses que Allah Ta'ala n'aime pas, et si ça devient haram, ça dépend le whisper dans quel but on va l'employer. Non, si on l'emploie pour y aller aider, pour guider, pour car en fait, quand on envoie un whisper pour dire à quelqu'un attention X, et dans la salle il fait des fitnas, etc. Ça, tam, tu as même des récompenses. Car tu veux aider, c'est comme si tu allais sortir un microbe. Un microbe, il y a un microbe dans ton corps, tu vas aider quelqu'un pour le faire sortir. Un service peut avoir autre, mais les autres ne savent pas de quoi on parle. Non, les autres, ils sont pas obligés de savoir. Non, ils sont pas obligés de savoir. Le hadith dit que ce n'est pas bien. Non, quand on est par exemple deux, trois personnes, deux sont en train de parler et ils laissent la personne seule. C'est pour ça que s'il y avait une autre personne avec la troisième, c'est possible que tu parles en tête à tête. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas interdit de dire à la troisième personne ou bien de dire à une quatrième personne, va parler avec la troisième, moi j'ai une chose là, en tête à tête à dire. Ce n'est pas interdit. Tu dis par exemple ceci, cela, j'ai compris. Non, ce n'est pas interdit car il n'est pas seul. Tu n'as pas laissé la personne seule, Inch'Allah ta'ala. Non, Allah Azza wa Jal a'lam. Tu vas dans Inch'Allah le suivant.
Safia, c'est à votre tour, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour vos efforts et vous accorde le paradis. Amin. Une personne qui possède sur les mains de l'eczéma, peau très sèche, quand elle touche l'eau, ça la démange et ça lui...
Je n'ai pas compris que ça veut dire, ça lui fait des petites coupures. Est-ce qu'elle peut m'expliquer que ça veut dire ça lui fait des petites coupures? Où est-ce que ça lui fait des coupures? J'ai pas compris.
Cher, des petites coupures, je pense que c'est des lésions sur la peau. Ma mère a la même chose. Donc ça fait des lésions, ça ouvre la peau. Donc ça fait des micro-coupures. C'est comme si on coupait avec une lame, donc je pense que c'est cela. Donc, Safia, vous me contredisez si c'est pas ça? Naam, donc, ok.
Naam, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guérisse cette personne et qu'il guérisse tous nos frères, nos sœurs et nos pères et nos mères et nos enfants qui ont cette maladie et toutes les maladies. Et toutes les maladies, bi'idna azza wa jal. De toute façon, une personne qui a cette chose, naam, elle doit, bi'idna ta'ala, prendre les médicaments qu'il faut, naam, prendre les soins qu'il faut. Ce sont des pommades, je crois. Ce sont des genres de pommades. Naam. Et quand elle ne peut pas, quand elle sent que naam, ça lui fait vraiment mal, elle peut, bi'idna ta'ala, passer au taymoum. Naam, elle peut dans ce cas, naam, passer au taymoum. Si elle a peur que, à force d'empirer, naam, son cas va empirer, les coupures vont grandir, etc. Elle arrête comme ça de temps en temps, naam, en faisant quoi? En faisant le taymoum. En faisant le taymoum avec de la terre ou bien le caillou, naam, comme ça, jusqu'à ce qu'elle sente que, par exemple, c'est passé. Quand elle sent que c'est passé, elle revient vers l'eau. Non. Mais à condition qu'elle se soigne, à condition qu'elle fasse le maximum pour se soigner. Non. Je ne connais pas une autre solution. Si elle a une autre solution, qu'elle me la dise pour que je lui dise si c'est permis ou pas. Peut-être qu'il y a d'autres solutions que je ne connais pas. Non. Moi, je ne connais que cette solution. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam.
Abu Ayoub 51, à votre tour, Inch'Allah. Salam alaikum. Dans ma ville, il y a deux mosquées. Une où il y a beaucoup de frères salafis, mais des représentations d'oiseaux dans la salle de prière. Dans l'autre, qui n'est pas très loin de la première, il n'y a pas d'image, mais beaucoup de frères salafis. Pas très loin de la première, il n'y a pas d'image, mais pas beaucoup de frères salafis. Entre parenthèses, des fois aucun. Où dois-je aller prier? Barakallahu fikum.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, de préférence, naam, on prie dans la mosquée où il n'y a pas d'oiseau, où il n'y a pas de représentation d'oiseau, ni image, ni rien. C'est dans cette mosquée, inshallah ta'ala, qu'on prie. Quant aux salafis et pas salafis, naam, ceux-là, je laisse mes liens avec eux en dehors de la mosquée. Naam, en dehors de la mosquée. Maintenant, sauf si on a long. Sauf si en allant dans cette mosquée où il n'y a pas de représentation d'oiseaux, on est abordé par les sectes, etc. Et ils me font des problèmes, ils essayent de m'attirer, ils essayent de ceci, cela. Là, je suis obligé de m'éloigner d'eux en allant vers l'autre. Et je serai dans la darura. Sinon, s'il n'y a personne qui me fait des problèmes, je vais dans cette maison, dans cette mosquée faire la salat et relation avec les salafis, je les garde hors mosquée. Naam. Quand je termine la salat, je vais chez les autres, etc. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadlal.
Salam à 57. Inch'Allah, c'est à votre tour. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Est-ce qu'une femme peut mettre des chaussures ouvertes devant avec des chaussettes? Entre parenthèses, sachant que la forme des orteils paraissent. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Elle ne peut pas mettre des chaussures qui montrent les orteils, même si les orteils sont cachés par des chaussettes. Même si les orteils sont cachés par des chaussettes, le pied de la femme reste toujours une fitna. C'est pour ça que elle devrait mettre des chaussettes, des chaussures qui cachent son pied. Des chaussures qui ne montrent rien de son pied. Et encore, certains savants disent que, ils sont djilbab bien sûr, disent que son djilbab doit cacher ses chaussures. Naam. Donc, si au moins elle ne cache pas ses chaussures, alors qu'elle cache ses pieds pour qu'on ne voit pas ses orteils, même s'ils sont enveloppés par des chaussettes. Naam. Tafadhal inshallah ta'ala suivant.
Zineb, Inch'Allah, c'est à votre tour. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, shir. Je vous remercie d'avoir répondu à mon mail. Jazakumullahu khairan. Une sœur m'a chargé de vous poser la question qui suit. Cette sœur ne souhaite pas que ses enfants se rendent au domicile de sa coépouse. Cela lui est-il permis? Qu'Allah vous préserve et vous accorde le firdaus. Amin. Cher Arfouane, la sœur elle m'a dit la même chose en PV, mais moi je la vois pas sur ma liste. Ajib, hein, c'est bizarre ça. Donc, Saoudia, Inch'Allah, transmettez-moi votre question et je vais la poser. Apparemment, c'est un problème sur. Moi j'ai Zineb sur ma liste, je vous ai pas. Des fois ça arrive qu'on a une personne, on voit pas le pseudo apparaître. Donc, je m'excuse. Donc, Inch'Allah, vous me donnez votre question en PV et je vais la poser. Ok, cher, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, je pose la question de Zineb. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, cher. Je vous remercie d'avoir répondu à mon mail. Jazakallahu khairan. Une sœur m'a chargé de vous poser la question qui suit. Cette sœur ne souhaite pas que ses enfants se rendent au domicile de sa coépouse. Cela lui est-il permis? Qu'Allah vous préserve et vous accorde le firdaus.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il faut faire la différence entre que la sœur n'accepte pas que ses enfants. Naam. Aïe. Une seconde. Elle a dit Est-ce que ces enfants, elle veut dire ces enfants à elle, qui ne sont pas issus du même époux, ou bien elle parle des enfants qui sont issus du même époux, de façon à ce que le mari de sa coépouse, c'est leur père. C'est leur père. Donc je pose la question, j'attends la réponse. Issus du même époux, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Non. Donc ici, il faut faire la différence entre quoi? Il faut faire la différence entre les empêcher d'aller chez leur père et les empêcher d'aller chez leur coépouse. Pardon, chez sa coépouse. Non. Elle n'a pas le droit de les empêcher qu'ils voient leur père. Mais ce n'est pas obligé qu'ils aillent chez... Elle a peur d'elle, par exemple, qu'elle fait du sihr, ou bien elle sait qu'elle a un mauvais œil, ou bien elle sait qu'elle va leur apprendre des choses qui ne sont pas bien, elle peut les empêcher. Elle dit, moi, mes enfants ne partent pas chez ta coépouse. Quant à toi qui es leur père, Naam, tu peux venir les voir, tu peux les prendre ailleurs, chez ta mère, dans un autre appartement, où tu veux, Naam, tu les prends au jardin, à la forêt, où tu veux. Mais seulement, je ne veux pas qu'ils rencontrent. Naam, il faut avoir une raison. Naam, il faut avoir une raison. Pourquoi spécialement tu ne voudrais pas qu'il aille chez cette femme? Naam, il faudrait une raison, bien sûr. N'est pas bien, peut-être qu'elle est ceci, elle est cela. Sinon, pourquoi alors elle l'interdirait? Elle a peur pour eux. Justement, elle a peur de quoi? C'est ce que je voulais dire. Elle a peur de quoi? Si elle a peur qu'elle le là, non? Taïb, alors, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle explique ça à son mari, c'est tout. Qu'elle explique cela à son mari, qu'elle lui dise, pour moi, hein, mon cœur n'est pas apaisé, je voudrais que mes enfants ne partent pas chez elle, et je voudrais que tu les rencontres ailleurs. Non, donc qu'elle convainque son mari, car elle n'est pas obligée de les envoyer chez sa coépouse. Sa coépouse, c'est une étrangère pour elle. Personne ne l'oblige qu'elle envoie ses enfants chez elle. Mais qu'elle fasse comprendre son mari pour qu'il comprenne, pour qu'il soit convaincu qu'elle ne lui interdit pas de voir ses enfants. Mais elle ne voudrait pas. Yani pour des raisons personnelles, elle ne voudrait pas qu'elle aille, que ses enfants aillent chez sa coépouse. Non, ce n'est pas une obligation que ses enfants aillent chez la coépouse.
Donc, salam alaikum, je vais lire la question de Saoudia. Assalamu alaikum, Shir. Je crois que lors d'un cours, vous aviez répondu à une question que lorsque la femme est en dehors de chez elle et que le temps de la prière est entré, elle doit prier debout et que sa prière assise n'est pas valable sans excuse, quitte à prier devant des non-musulmans si elle ne craint aucun. Mais comment peut-elle faire lors de l'inclinaison et de la prosternation? Et serait-il possible à la personne qui a fait l'annonce dernièrement sur cette room concernant la sœur qui a fait Hijra en Égypte? Je vais donner les coordonnées de cette dernière pour ceux qui le veulent en privé.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. La femme, si vous avez remarqué en islam, quand elle fait la prière, elle se met derrière les hommes. Pour ne pas être une fitna pour les hommes. C'est pour ça qu'elle se met derrière. Comme ça, quand elle se met derrière, les hommes sont debout, à l'avant. Naam, ils ne voient pas ce qui se passe derrière. C'est pour ça que la femme, naam, dans les hadiths authentiques, il est dit que dire dans sa tente, c'est mieux que la prière dans sa chambre. La prière dans sa chambre, comme ça. Naam. C'est pour ça que maintenant, si elle est dans un endroit où c'est l'heure de la prière et qu'elle doit faire la prière, alors qu'elle choisisse au maximum un endroit où elle peut être cachée. Alors si elle trouve pas, alors qu'elle choisisse un endroit où elle peut être derrière. C'est-à-dire qu'elle mette par exemple son dos, naam, derrière un arbre. C'est-à-dire derrière son dos, il y a un arbre, il y a une voiture. Et comme ça lorsqu'elle s'incline, elle se prosterne, hein, il y a toujours quelqu'un derrière elle. C'est la meilleure position. Mais il n'y a rien dans l'islam qui interdise à la femme d'essayer d'être toujours au derrière, de façon à ce que, hein, il y ait quelque chose dans son dos, si elle peut. Un arbre de préférence, comme ça quand elle est prosternée ou elle est inclinée, hein, yani, sa aura est cachée. نعم والله تعالى أعلم تفضل إن شاء الله تعالى السويفون
عبد الرحمن à votre tour إن شاء الله السلام عليكم شيخ qu'Allah عز وجل vous préserve et qu'il vous récompense pour tout ce temps que vous nous accordez Amin j'envisage de faire l'hijra très prochainement et j'aimerais savoir si a-t-on le droit de partir en laissant derrière soi ses parents, frères et sœurs dans l'ignorance, car ils accordent beaucoup de leur temps à la dunya. Faut-il les prêcher avant de partir? Barakallahu fikum, qu'Allah vous accorde le firdaus, Allahumma amin.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Prêcher les gens, leur faire la da'wa, surtout à la famille, ce n'est pas une chose qui a rapport avec la hijra. Naam. Moi, quand j'ai ma famille ou là j'ai mes voisins ou là j'ai des gens qui veulent m'écouter, je dois leur faire le prêche, surtout s'ils sont ma famille. Naam. Sans dire, est-ce que je dois les prêcher avant de faire la hijra. Non, la hijra c'est autre chose et le prêche c'est autre chose. Le prêche, on le fait tout le temps et à chaque fois qu'on a l'occasion, on doit le faire. Maintenant, autre chose, naam, quand on leur fait le prêche, ils acceptent, alors, naam, alors, on doit commencer dès maintenant, hein, comme ça, d'ici le temps de faire la hijra, on aura fait le maximum qu'on peut faire. Mais ce n'est pas parce que il y a des gens, hein, qui sont dans l'ignorance que moi je ne vais pas faire la hijra à cause d'eux et que je dois rester dans un pays de coffre où je peux couler moi-même d'un instant à l'autre. Hein, dans un pays de coffre, d'un instant à l'autre et une personne peut couler. Et les personnes qui sont en train de couler, on ne peut pas les compter, tellement ils sont nombreux qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. C'est pour ça, vous, chaque soir avant d'aller vous coucher, si vous voyez que vous êtes toujours dans le vrai chemin, vous êtes toujours dans la piété, vous avez fait des salats à l'heure, vous n'avez pas fait le haram, pas de zina, pas ceci, chaque signe, et je tiens. Et je suis toujours dans le droit chemin. Naam. Car c'est vraiment, vraiment difficile dans le pays de les choses qui se passent dans les pays de Kuffar. Naam. Peut-être vous ne savez pas, mais je sais que vous savez. C'est vraiment très, 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 très grave. Naam. Très, très grave. Je voudrais pas vous affaiblir si je vous dis, Dina. Et je voudrais pas vous affaiblir si je vous dis qu'il y a des sœurs avec le niqab et avec les gants qui font la zina. Avec le niqab et avec les gants. Il y a même des sœurs mariées qui font la zina. Avec le niqab et les gants, des sœurs mariées font la zina avec des frères. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Je voudrais pas dire comme ça devant tout le monde, mais je l'ai dit, c'est dommage parce que ça va faire plaisir aux kuffars et ça va faire plaisir à qui? Aux autres sectes. Aux sectes qui vont dire voilà, celle-là, les salafiyas, le niqab et elle fait la zina, etc. Vous allez dire comment il a dit elle a fait la zina, il est avec elle. Comment il l'a su? Il faut 4 témoins, etc. Non. C'est des personnes qui elles-mêmes font cela et qui me contactent. Elles-mêmes font cela et qui me contactent. Non. Que Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc la hijra est obligatoire. Moi je pars en hijra Et celui qui n'a pas appris son dîn, c'est de sa faute. C'est de sa faute. S'il voulait et qu'il apprenne le dîn. Naam. Comme je voudrais attirer l'attention aussi sur les frères et les sœurs, sur les frères et les sœurs qui s'écrivent en PV, qui s'écrivent en PV et discutent et se donnent des rendez-vous et je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Naam. Tout cela auront vraiment un grand châtiment demain lorsqu'ils rencontreront Allah Azza wa Jal. Surtout parce qu'ils l'ont fait dans des salons à vocation islamique. Ils sont rentrés dans les salons où on doit apprendre le dîn, les salons où on veut connaître l'islam, et eux, ils se sont écrits comme ça en PV, ils ont fait la connaissance et ils ont commencé à s'envoyer leurs photos, à se rencontrer et bien sûr, ils finissent par tomber dans ce que je viens de dire. Cela, hein, leur châtiment sera grand demain quand ils rencontreront Allah Azza wa Jalla. Car ils ne sont pas rentrés dans un salon où c'est écrit rencontre et connaissance et ceci, cela. Mais ils sont rentrés dans le salon où il y a islam et ils écrivent aux sœurs et les sœurs écrivent aux frères. Ils commencent à faire la connaissance et ils tombent dans le haram. Que Allah Azza wa Jal nous préserve. Tfadla, inshallah ta'ala, le prochain.
Mahfak, inshallah, c'est votre tour. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Peut-on consommer de la muscade? Jazakumullahu khairan, cheikh. Assalamu alaikum. C'est une épice.
Vous savez, alaikum salam, comme on dit que jawab far'a an tasawwur, il faudrait d'abord comprendre la question pour pouvoir répondre. Naam. Je ne sais pas ce qu'est la muscade. Et je ne sais pas c'est quel genre d'épice c'est. Non. Comment puis-je alors répondre? Je ne sais pas ce qu'est la muscade ni l'épice elle est. C'est pour ça que je ne peux pas répondre. Non. Tfadla, Inch'Allah. Prochain. Ou bien il explique encore. Il explique ce que c'est. Ou bien il envoie une photo.
Assalamu alaikum. Donc, Shir, c'est la question de Ryana 8. Elle me l'a envoyée. Elle est très longue, donc je vais vous la lire. Salam alaikum, Shir. Une sœur m'a envoyé ce mail pour que vous la conseilliez. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Cela fait plus d'un an. Est-ce qu'il y a du son avant? Vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Il n'y a pas de son? Ah, si, on m'entend. Alhamdulillah. Donc je lis la question. Cela fait plus d'un an que je désire me marier avec un homme pieux. Il n'a pas la même origine que moi. Celui-ci suit la sunna. Au début, mes parents ont toujours voulu que j'épouse un de mes cousins du bled. Sinon, c'est rien. Mais pendant toute cette année, j'ai parlé à maintes reprises de cette situation à mon père. Finalement, il n'accepte que quelqu'un de la même origine que moi. Le père, il n'accepte que quelqu'un de la même origine que la sœur. Le frère et moi, nous avons patienté de cette situation. Je précise que nous avons effectué cette démarche sans tentation. Mon père croit que j'ai forniqué avec le frère, car cela fait un an que j'attends que mon père change. Et lui, toujours motivé, donc il se doute. Il est persuadé que je sors avec lui. Pire encore, il croit que j'ai eu des rapports avec lui. Mes parents n'ont pas du tout confiance en moi. De plus, je prends des cours d'arabe et de Coran. Je suis la sunna. Mon père m'a interdit d'y aller à aucun cours, de voir des sœurs. Il dit que je suis une secte. Il n'aime pas comment je m'habille, djilbab, etc. Les pensées que j'ai, entre parenthèses.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn al-Qayyim, je t'écris, je te dis une seconde, arrête, etc. Bien sûr, toi, tu ne me vois pas parce que tu es en train de lire. Tayyib, je devais t'arrêter. Parce que, pourquoi je devais t'arrêter? Pour te dire que je n'avais pas entendu. Non, je te demande donc de relire, Inch'Allah ta'ala, parce que j'étais en train de lire autre chose. Tfadla, Inch'Allah ta'ala, tafadla. Lis maintenant, tfadla.
Salam alaikum, vous m'entendez, cher? Est-ce qu'on m'entend là? Alhamdulillah. Salam alaikum, cher. Une sœur m'a envoyé ce mail pour que vous la conseilliez, Inch'Allah, barakallahu fikoum. Donc c'est la question de Rayana 8. Que je désire me marier avec un homme pieux. Il n'a pas la même origine que moi. Cet homme suit la sunna. Au début, mes parents ont toujours voulu que j'épouse un de mes cousins du bled. Sinon, c'est rien. Mais pendant toute cette année, il n'accepte que quelqu'un de la même origine que moi. Le frère et moi, nous avons patienté de cette situation. Je précise que nous avons effectué cette démarche sans tentation. Il n'y a pas eu de fornication ni rien. Un autre problème, c'est que mon père croit que j'ai forniqué avec le frère, car cela fait un an que j'attends que mon père change. Et lui, le frère, est toujours motivé, donc il a des doutes. Il est persuadé que je sors avec lui. Pire encore, il croit que j'ai eu des rapports avec lui. Mes parents n'ont pas du tout confiance en moi. De plus, je prends des d'arabe et de Coran, je suis la sunna. Mon père m'interdit d'aller au cours, de voir des sœurs. Il dit que je suis dans une secte. Il n'aime pas comment je m'habille, djilbab, etc. Il n'aime pas les pensées que j'ai. Exemple, la mixité, interdiction de serrer la main des hommes, etc. Des choses très basiques de l'islam. Bref, à partir de maintenant, mon père, qui suive la sunna, j'ai beaucoup de livres de Shir ibn Uthaymin, rahimallah, et des savants du Minhaj. Mon frère les a confisqués, quelques-uns, et a déclaré qu'ils racontent n'importe quoi. Il a menacé de les détruire. Je ne peux plus sortir de chez moi et ne plus suivre mon dîn. Entre parenthèses, l'arabe courant. La dernière fois que j'ai parlé à mon père de cette situation, il a tenté de m'étrangler. Allah musta'an. De plus, c'est bientôt les vacances. J'ai bien peur de m'ensorceler à me marier ou de m'ensorceler à ce que je change de chemin, car je sais que mes parents en sont capables. Je ne sais plus quoi faire. Cette situation, ma famille n'aime les personnes qui suivent la sunna, n'aime pas les personnes qui suivent la sunna. Je ne sais quoi faire. Je suis trop tourmenté par cette situation. Que dois-je faire?
Nourkayim, tu as terminé? Alhamdulillah. لا حول ولا قوة إلا Un cas pareil, de toute façon, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup, il y en a tellement que c'est devenu un courant d'entendre des choses pareilles. Je trouve que c'est courant maintenant. C'est très courant des choses comme ça dans des familles. Dans des familles. Moi, je dis que en islam, mais où est l'islam? C'est ça. En islam, alhamdoulilah, l'islam a donné des solutions à toutes les difficultés. Toutes les difficultés, l'islam, alhamdoulilah, quand on l'applique, on trouve la solution. C'est quoi la solution? La solution de l'islam, c'est de déposer une plainte contre celui au tribunal musulman qui enlève, qui d'abord convoque le père et l'oblige de la marier avec celui qui remplit les conditions. Sinon, le juge lui enlève la tutelle. Et le quatrième, sinon, c'est le juge lui-même qui prend la décision et la tutelle de la mariée. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, où est l'islam? Où est l'islam pour trouver la solution à cette sœur et à des sœurs qui sont dans des cas similaires, dans des cas similaires. Non. C'est pour ça que la sœur choisira entre deux choses, ou bien de patienter et de faire beaucoup de doigts, car les cœurs sont entre deux doigts de l'Azza wa Jal et il peut les changer d'une seconde à l'autre. Non. D'une seconde à l'autre, l'Azza wa Jal peut changer les cœurs et les renverser de l'autre côté. Et rendre rendre le père, masha'Allah, il accepte, et il accepte le din, il accepte le minhaj, il accepte ceci, cela, naam. Ou bien la deuxième solution, naam, serait disons un côté, comment dirais-je, attendez, je cherche le mot, officiel, naam, un côté officiel, naam, comme une ambassade musulmane, un centre islamique, des choses comme ça, où ils peuvent la marier et ils peuvent prendre la tutelle pour la marier. Naam, ils peuvent prendre la tutelle pour la marier et la faire sortir du pétrin où elle est. Naam. Sinon, je ne vois pas comment qu'elle pourrait faire. Je ne vois pas comment qu'elle pourrait faire. Naam. Car l'islam, ou bien on va y aller au côté officiel, si on était dans un pays musulman, comme le tribunal, naam. Sinon, dans un pays de coffre, il faut aller vers un centre islamique, vers l'ambassade, vers un imam qui est officiel, et comme ça, naam, pour essayer de lui traiter. Tafadla, inshallah, le prochain.
Assalamu alaikum. Donc, Shir, il y a Merfag qui a envoyé la définition pour concernant peut-on consommer de la muscade. C'est une épice, donc il m'a écrit. Elle entre dans la composition du curry et son utilisation est très variée dans la cuisine, qu'elle soit salée ou sucrée. En cuisine française, elle est notamment utilisée pour aromatiser le gratin dauphinois, l'aril de la noix de muscade, séchée appelée massis ou fleur de muscade, est très appréciée pour sa coloration orangée. Être plus douce que le massis. Cher, donc d'après Talab al-Ilm, donc il dit vertu, c'est une drogue douce. Allahu a'lam. Donc il y a deux. Salam alaikum, vous avez du son? Alhamdulillah. Donc Cher, il y a la question de Abu Ahmed. Je vais vous la lire, inshallah. Assalamu alaikum. Donc, assalamu alaikum, je refais. Shir, un frère était musicien il y a 5 ans. Il sait que la musique est haram désormais. On lui devait. Subhanallah, excusez-moi. Shir, un frère était musicien il y a 5 ans. Il sait que la musique est haram désormais. On lui devait une somme d'argent depuis 5 ans due à la musique. A-t-il le droit de prendre cet argent? Il y a aussi une sœur qui a acheté des vêtements, ordinateur portable, avec une carte soi-disant gratuite. Elle avait tout payé et maintenant cette sœur a reçu une facture de 2000 euros à leur régler. Ce sont des intérêts. Doit-elle se débarrasser de ces choses ou peut-elle les garder? Et doit-elle payer cette somme qu'il leur réclame? Barakallahu fikoum, c'est fini la question. Ok, chérie, inchallah. Donc, je vais répéter pour la sœur. Là, je vais faire un copier-coller, comme ça, vous pouvez lire en même temps que moi. Donc, il y a aussi une sœur qui a acheté des vêtements. Ordinateur portable avec une carte soi-disant gratuite. Elle avait tout payé et maintenant, cette sœur a reçu une facture de 2000 euros à leur régler. Ce sont des intérêts. Doit-elle se débarrasser de ces choses ou peut-elle les garder? Et doit-elle payer cette somme qu'il leur réclame? Donc voilà comment la question elle m'a été transmise.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne la deuxième question, il faut dire que c'est pas clair. Mais je réponds d'après ce que j'ai compris, c'est tout. Non. Car comment se fait-il que d'un côté elle a payé ce qu'elle a acheté? Elle a payé ce qu'elle a acheté. Ensuite, on lui demande, on lui réclame de payer encore une fois 2000 euros. Ça, c'est vraiment difficile à comprendre, mais c'est comme ça que j'ai compris, moi. J'ai compris qu'elle a acheté des choses, elle a payé. Ensuite, on lui a demandé de repayer. On lui a demandé de repayer 2000 euros à cause des comment ça s'appelle, des intérêts ou je ne sais pas quoi. Non. Et maintenant, elle dit, peut-elle les garder? Qu'est-ce qu'elle peut garder? Les choses qu'elle a achetées, elle peut les garder parce qu'elle les a payées. Elle a acheté des choses, elle a payé. Non. Ces choses, elle peut les garder puisque elle a donné en contrepartie de l'argent. Non. Reste pour les intérêts, elle ne les paye pas. Non. Pour les intérêts qu'on a demandés, elle ne les paye pas. Non. Car on n'a pas le droit de payer des intérêts. On n'a pas le droit de payer des intérêts. Non, elle ne paye pas les intérêts. Elle n'avait pas tout payé, juste certaines choses. Est-ce qu'elle savait qu'en ne pas payant certaines choses, elle va avoir des intérêts? Et que ça Est-ce qu'elle savait que si je paye pas telle et telle chose, ça va monter dans les intérêts? Est-ce qu'elle savait cette chose? Ah, elle s'en doutait. Nam. Quand on achète une chose, avant d'acheter, on doit connaître son prix. Elle vient de dire que non. Non. Et bien, si elle sait que, par exemple, elle va aller en prison, bien on va lui faire quelque chose vraiment, lui prendre son argent de la banque et comme ça. Non. Sinon, tant qu'elle peut, elle ne paye pas. Tant que je peux, je ne vais pas les payer, surtout que je ne savais pas. Je ne savais pas que dans cette chose, il y avait des intérêts à payer. Je ne paye pas les intérêts qui sont de l'argent de haram, l'argent que vous me prenez sans que je sois d'accord, à condition, comme je viens de dire, que je ne fais pas rentrer un plus grand mal sur moi, ni en ma personne, ni en mes biens. Ça, c'est en ce qui concerne la deuxième question. En ce qui concerne la première question, quelqu'un qui jouait de la musique, etc., et qui, après, il a su que c'était haram, il n'a plus le droit de prendre l'argent. Il n'a plus le droit de prendre cet argent. Parce qu'à partir du moment où il a su c'était haram, il n'a plus le droit de prendre l'argent de la musique qu'il jouait ou bien qu'il faisait. Et comme ça, non, l'argent sans qu'il veuille. Sur son compte, ou là qu'on lui donne un chèque sans qu'il veuille, alors cet argent, il le donnera, fi sabilillah. Il le donnera aux pauvres et aux nécessiteux. Non, à cette époque il savait pas. Bon, mais je suis d'accord avec toi. Mais maintenant il sait. Maintenant il sait que c'est haram. C'est maintenant que ça commence à compter. Tant qu'il n'a pas reçu l'argent, il ne le prend pas. Non, voilà, c'est comme ça. Maintenant je sais. Chose est haram, donc je ne prends plus telle et telle chose qui autrefois n'était pas haram car je ne savais pas. Et maintenant, à partir du moment où je sais, je ne prends plus. Mais si on me force et on me les donne, je les donne, et c'est bien. Naam, il peut donner à un membre de sa famille. Un membre de sa famille, si ce membre de sa famille est pauvre ou nécessiteux. Naam, il lui donne s'il a des dettes à payer, comme ça. Naam. Tayyib, écoutez. Ici, il y a un frère qui faisait des doros, et qui beaucoup de frères et sœurs écoutaient ses dars quand il était dans le minhaj. On me dit son pseudo c'est Al-Baydawi. Son pseudo c'est Al-Baydawi, et maintenant il est devenu takfiri. Il kaffar tous les hukam. On me dit il donne des doros dans l'arôme de Palestinian 8. Palestinien 8, qui est connu que c'est un grand, mais bien sûr il n'a pas de science. Palestinien 8 n'a pas de science. Enfin, tous ils n'ont pas de science. Mais celui-là, il est comme eux. Est-ce que vous pouvez faire une mise en garde pour que les gens n'écoutent plus ces cours dans l'arôme qui s'appelle les selfs? Non. Vous avez remarqué que maintenant, vous avez remarqué que maintenant, quiconque veut faire marcher sa dawa, il appelle salaf. Il dit salaf, salaf salah. Ah, Coran et Sunna. Non, Coran et Sunna d'après les salaf, Coran et Sunna d'après les plus prédécesseurs. Et comme ça. Donc, Inch'Allah Ta'ala, vous avez assez. Voilà, vous avez Inch'Allah Ta'ala assez de science pour ne pas être dupé. Pour ne pas être dupé et pour ne pas tomber dans le piège. Ce n'est, on est en train de faire le cours. Il y a un salon qui est ouvert qui se fait appeler Ahlus Sunna. Ahlus Sunna. Est-ce qu'ils se sont fait appeler Ahlus Sunna? Ça veut dire qu'ils sont Ahlus Sunna? Non, ce sont des Habèches. Ce sont des Habèches. Est-ce qu'ils disent Ansar Tawhid? Est-ce que parce qu'ils ont dit nous sommes les alliés du Tawhid, que ça veut dire qu'ils ne sont pas des Tekfiriyin? Non, ce sont des Tekfiriyin. Donc l'essentiel c'est quoi? De ne jamais rentrer dans un salon si vous n'avez pas la tazkiya de ce salon. Si vous n'avez pas la tazkiya de ce salon, de ne jamais rentrer dans un salon, même s'il dit Ansar Tawhid, même s'il dit les alliés du prophète, ou bien ils disent les prédécesseurs.
Assalamu alaikum. Juste une précision, Inch'Allah, parce qu'il y a des gens qui commencent à m'envoyer des PV qui me disent ouais mais vous avez la preuve que le frère c'est un takfiri et tout, donc il y a moi et un autre frère, Abou Soswen, donc celui qui est dans Central Fourcan de Bruxelles. On a demandé à prendre contact avec le frère quand il faisait son dars dans la room à Palestine 8, donc la room c'est Coran ou Sunna avec la compréhension des salafs. Donc on est rentré dans la room, on a demandé à prendre contact avec lui pour savoir si vraiment il était devenu takfiri et tout ça. Et on nous a bouncé de la room, donc le frère a vu que on s'était fait bouncer de la room, et c'est un frère qui nous connaissait, donc il a même pas cherché à prendre contact avec nous, donc voilà pour ceux qui m'envoient des PV. Donc Oumou Jawaria, en attendant la question de Oumou Jawaria, parce qu'elle la prépare en privé. Alias à votre tour, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. J'ai un enfant issu d'un premier mariage, Alhamdulillah. Son père est parti avant sa naissance. Entre parenthèses, Allah yihdi. Je n'ai plus de nouvelles depuis des mois. Je songe à un remariage, bi'inillah. Mais je me demandais comment mon enfant pourra appeler son beau-père. Pourra-t-il l'appeler Abi ou non? Pour ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet des frères et sœurs qui dialoguent et font connaissance sur Internet, vous aviez aussi dit il y a quelques semaines qu'Allah ne mettra pas sa baraka s'ils se marient, mais s'ils ont fait le repentir, qu'Allah vous récompense et vous préserve.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. En ce qui concerne l'enfant de Aliya, naam, de préférence, naam, qu'il n'appelle pas son beau-père Abi. Naam, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ensuite, pour que ce soit pas difficile pour lui aussi de savoir quand il va grandir que ce n'est pas son père. Naam. C'est pour cela que on lui cherche comment qui peut l'appeler Naam, Ammi, Khadi, etc. Naam, je ne sais pas chez vous comment vous appelez. Je ne sais pas chez vous vos habitudes, comment vous appelez. Al-Walid. Naam, Al-Walid. Al-Walid en arabe, c'est le père. Al-Walid en arabe, c'est le père. Naam. Il faut chercher un mot comme ça qui soit respectueux. Naam. Respectueux et naam. Qui ne fasse pas de confusion en même temps. Naam. Et on demandera au mari, bien sûr, la femme demandera au mari. Par exemple, il peut l'appeler directement par sa kunya. Naam. On demandera au mari quelle est ta kunya. S'il dit par exemple je suis Abu ceci, Abu Mohammed, Abu Ali, il l'appelle par la kunya directement. Abu Ali, Abu Kamza. Naam, il l'appelle directement par la kunya. Inch'Allah ta'ala. En ce qui concerne, deuxièmement, en ce qui concerne. C'était quoi la deuxième question? Naam. En ce qui concerne les gens qui se connaissent déjà, naam, s'ils font la tauba sincère, s'ils font la tauba sincère avant de se marier, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, naam, leur fera la bénédiction dans leur mariage. Mais s'ils font la tauba sincère, car vous savez que la tauba annule et démolit tout ce qu'il y a avant elle. La tauba sincère à Azzawajal. Naam. Et pour cet enfant, même s'il appelle cet homme, il appelle par exemple Ammi ou là, ce n'est pas grave. Naam, Ammi, Khali, naam, tout cela, ce n'est pas grave, Inch'Allah ta'ala. Tfazzal.
Cher la sœur Oumou Djawaria, elle m'a envoyé sa question en privé, mais le problème, c'est que elle est déconnectée maintenant. Donc je ne sais pas si je lis sa question ou pas. Ou bien on passe à Oum Belkis, je ne sais pas. Parce qu'elle m'a envoyé sa question en privé, mais elle est déconnectée maintenant. Est-ce qu'on attend qu'elle se reconnecte pour poser la question ou pas? Ok, c'est à votre tour, Inch'Allah. Oum Belkis, vous nous entendez, Inch'Allah? Je ne sais pas si la sœur est avec nous. Donc, Oumi 5, Inch'Allah, c'est à votre tour, en attendant que Oum Belkis se prépare. Donc, Oumi 5. Donc la sœur Oumou Joualia, donc elle s'est reconnectée. Salam alaikum. Mon mari est tunisien et Inch'Allah, nous devons rentrer en Tunisie cet été. Ça fait 7 ans qu'il n'a pas vu sa famille. Avant, il n'était pas dans le dîn. Il n'était pas marié et maintenant nous sommes hajj, alhamdoulilah. Nous ne savons pas comment faire pour leur faire comprendre avec hikmah que lui ne doit pas avoir ses cousines et que moi je ne peux pas voir ses cousins. Entre parenthèses, faire la bise, serrer la main. Si toutefois les autorités tunisiennes nous causaient des problèmes par rapport à nos apparences, entre parenthèses, barbe, djilbab, sitar, me serait-il permis d'enlever mon sitar, mon niqab? Allah yajazikum bihir, qu'Allah vous accorde le bien ici-bas et dans l'au-delà.
Ibn al-Qayyim, ou bien je n'ai pas bien entendu, ou bien il manque quelque chose dans ce qu'a dit la sœur, ou bien j'ai pas entendu la fin, ou bien il manque quelque chose. Quand elle a parlé de sitar niqab, elle a parlé de les autorités tunisiennes. Naam, qu'est-ce qu'elle a dit là? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il manque quelque chose pour moi. Je vais lire, d'accord. Si toutefois les autorités tunisiennes nous causaient des problèmes par rapport aux enfants, me serait-il permis, voilà ce qui manque. Tu vois, Ibn al-Qayyim, tu n'as pas dit la fin. Me serait-il permis d'enlever mon niqab? Allah et Jazirun, qu'Allah vous accorde le bien ici. En ce qui concerne les cousins et les cousines, etc. Naam. En ce qui concerne les cousins et les cousines, il faudrait dès maintenant, naam, qu'on le mari téléphone. Pour leur dire qu'on va venir, etc. Naam. Il faudrait qu'il leur annonce que maintenant, mashallah, il est dans le dîn et que sa femme est dans le dîn, etc. Et qu'il ne fait pas la bise et que sa femme ne fait pas la bise à ses cousins, etc. Naam. Il faudrait dès maintenant pour préparer le terrain. Il faudrait dès maintenant préparer le terrain et ne pas laisser, quand on arrive là-bas, ce sera difficile et ce sera trop tard. C'est pour ça que dès maintenant, quand il téléphone, à chaque fois il dit que je vous ai dit que moi je ne fais plus la bise à mes cousines et que ma femme ne fait pas la bise à ses cousins, ni serre la main, etc. Naam. Et ils essaieront, inshallah ta'ala, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Ils essaieront de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum, car je sais que ce n'est pas facile et ce n'est pas ils vont réussir à chaque fois de ne pas serrer la main à tout le monde, mais qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Non. Ensuite, en ce qui concerne les autorités tunisiennes, etc., ce n'est pas facile. Non, il faut dire que ce n'est pas facile si elle va aller là-bas avec un djilbab, avec le sitar élégant. Avec le sitar élégant, je suis sûr qu'elle passera par le commissariat d'abord. Et que la Tunisie, c'est l'un des pays musulmans les plus difficiles au monde et les plus sévères avec ceux qui sont salafis. Avec la barbe et le niqab et le sitar, ça va pas être facile avec les autorités tunisiennes. Donc si elle est de l'avis que le visage caché, si elle est de l'avis qui dit que on n'est pas obligé en islam de cacher le visage, il vaut mieux qu'elle cache pas son visage là-bas, car c'est vraiment difficile pour elle. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal cheikh.
Donc, salam alaikum. La question de Umbelkis. Salam alaikum. Une sœur convertie demande: je n'ai pas eu de contact avec mon frère de sang pendant un long moment. Maintenant, nous avons repris contact et mon frère me demande d'utiliser la webcam pour se voir, se parler et notamment voir, montrer nos photos, notamment montrer nos enfants. Car je n'ai pas le droit de lui envoyer des photos de ma famille, donc je souhaiterais savoir si l'utilisation des webcams est légiférée en islam et s'il y a des écrits de savants sur ce sujet. Barakallahu fikoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, on se concerne l'utilisation de la webcam. Naam, la webcam. Naam. Il y a des divergences entre les savants. Naam. Mais inshallah ta'ala, l'avis le plus sûr, inshallah ta'ala, c'est que c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est en direct. Naam, c'est permis pourquoi? Parce que c'est en direct. C'est comme si j'avais un miroir en face de moi et je tournais un autre miroir en face du miroir et je tourne là de façon à ce qu'elle soit vue pour celui qui voit le miroir qui est en face de mon miroir. Non. Utiliser la webcam, c'est se voir en direct. C'est se voir en direct. Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas interdit. Non. Et ceux qui ont dit c'est interdit, non, leur délit ne sont pas, inshallah ta'ala, ne sont pas yani, très très plausibles. Non. Pourquoi? Parce que on est en train de se voir en direct. Non. C'est pour ça que vous remarquez maintenant que beaucoup beaucoup de savants se font voir à la télévision. Pourquoi? Parce que c'est en direct. Non. Et même en différé. Et beaucoup de savants se font voir en différé. Cheikh Ibn Uthaymin, en personne, là, Yahmo, a des cassettes vidéo où on le voit. Et beaucoup, beaucoup de savants maintenant. Tfadla, inshallah, suivant.
Donc, la question de Oummi 5. Salam alaikum, Yashir. Allah yahafdik wa yashafik, ainsi que vos proches. Amin. Premièrement, la muscade en dialecte algérien, c'est le djouza. Ma question est la suivante: quelle est la récompense de la hijra? Barakallahu fikum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Franchement, je ne connais pas le djouza hadi. Naam. Je ne connais pas le djouza. Si elle veut dire le djouz, c'est les noix. Si elle veut dire les noix, c'est autre chose. Et si elle dit djouza, franchement, je ne connais pas le djouza hadi. Non, il faudrait que je demande. Et la prochaine fois, je parlerai, inshallah ta'ala, de cette djouza. Mais c'est peut-être le djouz. Si c'est le djouz en général, c'est des noix. Non. En ce qui concerne, c'est har. Je ne sais pas, je vais demander après. Ma femme, inshallah ta'ala, et à ma mère. Je vais voir c'est quoi les djouz. Moi, je connais les djouz. Je connais les djouz, c'est tout. Non. Les premiers mots. Deuxièmement, je concerne la hijra. On se concerne la hijra. Sa récompense, contrepartie, celui qui ne la fait pas, celui qui ne la fait pas, non. Et s'il meurt dans un pays de coffre, c'est vraiment difficile pour lui, quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir vécu au milieu des kuffars qui sont là en train de t'affaiblir, qui sont là en train de te faire couler, et qui sont ta cause pour ta foi qui faiblit, qui ne monte jamais, ton iman qui est toujours en bas, les fitna que tu vois, et beaucoup beaucoup de gens, comme j'ai dit tout à l'heure, délaissent carrément le din, délaissent carrément la salat, jettent le djilbab. De ne pas avoir fait la hijra. À cause de ne pas avoir fait la hijra. Quand on vit au milieu des kuffars, même si le din ne coule pas, mais on prend quoi? On prend le mauvais comportement des kuffars à force d'être avec eux. On prend leurs mauvaises habitudes, les mauvaises que il est obligé pour chaque musulman de quitter le pays des kuffars dès que l'occasion se présente. Bi'idnillahi azza wa jalla. Tfadla inshallah ta'ala le suivant.
Alhamdulillah, à votre tour, Inch'Allah. À vous le micro, Inch'Allah, cher.
Ibn Qayyim, est-ce que tu m'entends? Alhamdulillah. Tayyib, je vois que le frère Abdullah 15 est avec nous. Je lui enlève le rouge. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Abdullah, inshallah ta'ala, je te donne le micro pour que tu nous passes le salam, inshallah ta'ala. Tfadlan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayya Allah, Shaykh al-Fadil. وأطال الله من عمرك وعملك الصالح. حيا الله الإخوان الأفاضل الكرام. نعم شيخنا، الله يحفظك أخي. كنا في شغل فاكهين، سأل الله أن يجمعنا وإياكم، بارك الله فيكم. فدون بارك الله فيك شيخنا، أنا معكم نستمع، بارك الله فيكم، فأعطيك الله قط وأعانكم الله، وصلى الله أن يجعل فيما تقدمونه خير للأمة إن شاء الله يا رب. تفضل شيخنا، بارك الله فيك.
السلام عليكم. Vous m'entendez؟ Abdullah, reste avec nous إن شاء الله تعالى. Abdullah, reste avec nous إن شاء الله تعالى. Une seconde. طيب. Ibn al-Qayyim, lis la question, inshallah. Je t'ai pas entendu la lire. Tfazal.
Naam, cher, vous ne m'avez pas entendu la lire parce que je ne l'ai pas lu. Je reçois beaucoup de PV, subhanallah, je suis débordé. Salam alaikum, cher. Une soeur, ses frères et soeurs et la mère ont subi des violences de la part de leur mère. Ils ont décidé de fuir le domicile conjugal. Aujourd'hui, certains des enfants ont tenté pour Allah de recontacter ce père par téléphone. Et les enfants qui ne l'ont pas encore contacté, doivent-ils le faire tout en connaissant sa réaction? Barakallahu fikum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, naam, pour que demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils aient des excuses. Ils aient des excuses, il faut que ils essayent d'insister Surtout, d'insister par exemple le jour de l'Aïd, le jour de le jour des fêtes, yani, où d'habitude les gens se contactent. Et même les autres enfants qui n'ont pas encore contacté, même en connaissant sa réaction, ils doivent au moins le faire une fois. Car on ne sait jamais, peut-être que le père n'accepte pas de parler à X de ses enfants, mais il parle à Y. Des fois, il ne parle pas au grand, mais il parle au jeune, celui qui est jeune le plus petit. Ou le contraire, il ne parle pas avec celui-là, mais il parle avec le plus âgé, parce qu'il le respecte. Et comme ça. Donc, chacun doit, bi'idhnillah ta'ala, faire quelque chose comme ça pour que demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, il ait, inshallah ta'ala, des excuses.